Laurence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand les Italiens font sauter la banque, retour sur l'âge de la retraite, revenu de citoyenneté, le mouvement 5 étoiles imprime sa marque sur le budget et c'est là que ça se complique. Avec Bruxelles et les marchés, nous serons à Rome dans un instant. À la une ce matin, les mots des Antilles françaises, le chlordécone bientôt reconnu maladie professionnelle, Emmanuel Macron désormais attendu en Guadeloupe où l'eau courante est presque un luxe dans certains endroits. Édouard Philippe, Laurent Wauquiez ou l'affrontement des deux droites, c'était vraiment ça hier sur France 2. Un projet d'attentat de grande ampleur déjoué hier aux Pays-Bas, le terrorisme au cœur de la réflexion de votre invité Nicolas.
Oui, c'est le journaliste et romancier Marc Weitzman. Il publie Un temps pour haïr aux éditions Grasset. Il est dans le grand entretien de la matinale. Dialoguez avec lui, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
À la une également, coup d'envoi de la Ryder Cup dans moins de 10 minutes, ambiance de stade de foot à Saint-Quentin en Yvelines, le blues des pompiers toujours plus occupés, pas mieux payés, parfois agressés, ils attendent beaucoup du ministre de l'Intérieur, et puis un cadeau Inter ce matin, le dernier Bashung, album posthume, et un premier titre en exclusivité à la fin du journal.
France Inter.
Jusqu'ici, le gouvernement italien, c'était Matteo Salvini et ses outrances sur les migrants, l'extrême droite aux manettes. On avait presque oublié que ce gouvernement compte aussi des antisystèmes du mouvement 5 étoiles. Les voilà en force dans le budget italien. Ils ont réussi à faire exploser le déficit pour financer un revenu de citoyenneté et un abaissement de l'âge de la retraite, quitte à un bras de fer avec Bruxelles et les marchés, Mathilde Imberti.
Le Conseil des ministres a approuvé tard dans la soirée un déficit à 2,4% du PIB et sur 3 ans jusqu'en 2021. Le gouvernement dit du changement rompt littéralement avec la politique de ses prédécesseurs, balayé aussi la proposition du ministre des Finances, un technicien apolitique, qui plaidait pour un déficit à 1,6 afin de rassurer les marchés. La Ligue s'enthousiasme de la baisse des impôts à venir et de la retraite anticipée pour 400 000 Italiens. Les antisystèmes des 5 étoiles fêtent de leur côté le lancement du revenu de citoyenneté, 800 euros par mois, versé à 6,5 millions d'Italiens modestes dès l'an prochain. Les activistes du mouvement se rassemblaient hier soir pour célébrer ce qu'ils surnomment le budget du peuple, Luigi Di Maio, leur leader.
Ce sont des mesures historiques. Et surtout, nous commençons à enlever aux puissants pour donner à tous ceux qui se cassent le dos au travail. Nous expliquerons au marché qu'il y a tellement d'investissements avec ce déficit à 2,4% que l'économie se relèvera autant que nous le voulons.
Indépendamment de la réaction des marchés, celle de la Commission européenne risque d'être sévère. Elle attend des gages de réduction de la colossale dette publique italienne, deuxième en Europe après celle de la Grèce. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Une dette de 2300 milliards d'euros, ce qui représente 130% du PIB italien. Un aveuglement collectif, voilà comment Emmanuel Macron qualifie le scandale du chlordécone aux Antilles, ce pesticide ravageur utilisé dans les bananeraies qui a contaminé 90% de la population. Mais le geste du président s'adresse aux seuls malades particulièrement exposés qui verront leur souffrance reconnue comme maladie professionnelle. Autre île, autre défi pour Emmanuel Macron. Il quitte la Martinique pour la Guadeloupe aujourd'hui, attendu sur le dossier des sargasses et sur la crise de l'eau. On en parle moins, mais le réseau d'eau en Guadeloupe est une véritable passoire, tellement abîmée que des coupures sont régulièrement organisées. Des Français sans eau courante, c'est un reportage de Thibault Lefebvre.
Eh bien voilà, on est devant le robinet, juste devant. Eh bien mon petit frère l'a ouvert, il n'y a pas une goutte.
Et ça fait 4 jours que ça dure. Rosan Bassette habite sur les hauteurs de Grande Savane, à Gourbert, c'est au sud de la Guadeloupe. Avec sa famille, il fait partie de la centaine d'habitants du quartier qui ont appris à vivre sans eau courante.
Pour les toilettes, eh bien il n'y a rien. On est obligé d'utiliser la vieille méthode, c'est prendre des bassines, remplir à la main la chasse d'eau dans un pays civilisé. Où on parle de droit de l'homme, de droit à la vie, de l'accès à l'eau, tout ça. On vit cette situation-là. Eh bien, il y a de quoi péter un câble des fois.
Chaque année, la Guadeloupe produit 60 millions de mètres cubes d'eau potable, mais moins de la moitié arrive dans les robinets. C'est donc un problème d'acheminement que l'État compte résoudre au plus vite. Philippe Gustin est le préfet de Guadeloupe.
La situation de l'eau en Guadeloupe est indigne d'un pays développé au XXIe siècle. Il va falloir engager des travaux phénoménaux sur un réseau qui a été laissé plus ou moins à l'abandon, qui s'abîme aussi beaucoup plus vite parce que nous sommes sous les tropiques. En tout cas, on va avoir un chantier qui devra se mener sur 5 ans, sur 10 ans à venir, et qui va nécessiter énormément de moyens financiers.
Un premier plan d'urgence de 71 millions d'euros doit permettre d'ici un an et demi de diminuer les coupures d'eau. La remise en marche complète du réseau devrait coûter entre 400 millions et 1 milliard d'euros.
Le réseau d'eau passoire de la Guadeloupe en photo sur franceinter.fr. Comme avant l'été, les Français soutiennent la ligne Macron sur les migrants, convaincus pour les trois quarts qu'il ne fallait pas accueillir l'Aquarius et ses naufragés à Marseille, selon un sondage Odoxa. Opinion majoritairement partagée par toutes les sensibilités politiques, y compris chez les partisans de la France insoumise.
L'immigration, 8h05, ce fut le thème principal d'ailleurs de l'affrontement entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez hier soir.
Le Premier ministre contre le patron de LR débat sur France 2. S'il voulait prouver qu'il y a aujourd'hui deux droites irréconciliables en France, eh bien c'est réussi, Maxence Lambrec.
Chacun dans son couloir, ambiance glaciale, regard fixe, quelques attaques, mais pas de dérapage.
Vous avez un problème avec la vérité, monsieur Wauquiez.
Je crains que vous ayez un problème avec la réalité, monsieur Philippe.
Non. La réalité, c'est qu'on peut se faire plaisir avec des formules simplistes. Là, vous avez des éléments de langage, vous pensiez les dire avant, vous n'écoutez même pas ce que je dis.
Les deux quadras font tout pour marquer leurs différences. Laurent Wauquiez déroule son projet anti-immigration et sa radicalité arrange Édouard Philippe.
Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le niveau de l'immigration est beaucoup trop élevé en France ?
Je vous remercie de poser la question comme ça, monsieur Wauquiez, parce qu'elle permet assez immédiatement de répondre à ceux qui, dans les oppositions de gauche, nous disent parfois que la politique que nous mettons en œuvre, ce serait la même que la vôtre.
Rien de tel pour se placer dans le camp des humanistes. Édouard Philippe profite du contraste et Laurent Wauquiez lui semble marquer des points à droite avec un discours clair, direct et déjà un slogan pour les européennes.
Il n'y a pas que Emmanuel Macron ou le chaos des extrêmes. Il y a un autre chemin pour ceux qui croient dans l'Europe, mais qui veulent une Europe qui protège et qui régule mieux ses frontières. C'est ce que nous nous emploierons à porter dans la campagne européenne.
Porter une troisième voie, casser le duel Macron-Le Pen, ce sera l'obsession de Laurent Wauquiez dans les prochains mois.
Et seule annonce de la soirée, Édouard Philippe esquisse l'idée d'une dégressivité des allocations chômage pour les salaires très élevés. Dans la série Mea culpa, que dire après coup des Gaulois réfractaires au changement ?
C'est une erreur. Et je l'assume, c'était une erreur de le réduire comme ça, parce que ça nourrit justement toutes ces espèces de confusion. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant ça ? Et je posais le gaulois réfractaire au luthérien bien ordonné. C'est-à-dire qu'il y a une identité des peuples. Mais cette identité, elle se construit dans un dialogue avec les autres, dans le respect de nos valeurs. Nous sommes français, nous avons des spécificités, des choix, un droit, une histoire, une langue qui n'est pas la même que les autres. Il n'y aura pas une langue, grande langue mondiale. Et donc, si on n'est que dans le rétrécissement sur soi, on trahit aussi cette identité.
Emmanuel Macron interviewé sur TCM, on n'est pas sûr de comprendre absolument bien son message. S'il regrette sa formulation, on notera qu'il parle tout de même de rétrécissement et qu'il pense sans doute aux Français. Et voilà, des Gaulois qui voudraient bien du changement. Ils portent des casques, mais ils ne sont pas irréductibles. Les pompiers sont de plus en plus confrontés à la violence, à la hausse de leurs interventions aussi, une toutes les 7 secondes. Réunis en congrès à Bourg-en-Bresse, les pompiers professionnels comme les volontaires, Sébastien Sabiron, attendent du concret de la part de Gérard Collomb qui viendra les voir demain.
Il représente 80% des pompiers français. L'effectif des volontaires est stable alors que le nombre d'interventions augmente. Une crise des vocations liée à un manque de communication, analyse Sandra Rossi, présidente de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Aude.
Quand vous regardez la télé, vous avez une campagne publicitaire nationale sur la gendarmerie, la police nationale, l'armée de terre. Cette campagne de publicité n'existe pas pour les sapeurs-pompiers.
En moyenne, un volontaire exerce une vingtaine d'heures par mois pour 2 à 300 euros. Des indemnités insuffisantes, selon Sandra Rossi, même si la base de l'engagement reste altruiste.
90 centimes de l'heure pour le pompier volontaire officier. Sapeur, 70 centimes de l'heure. En astreinte, qui aujourd'hui veut donner du temps pour 70 centimes de l'heure.
Les pompiers redoutent aussi une directive européenne qui inclut le volontariat dans le temps de travail, totalement incompatible avec le modèle français, estime Sandra Rossi.
Si vous dites qu'un pompier volontaire, c'est un travailleur, quand il a fini sa journée de travail chez son employeur, il ne peut pas être d'astreinte à 19h. Il faut qu'il ait 12 heures de repos.
Pour fidéliser les volontaires, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers propose plusieurs mesures, dont l'exonération de charges pour les employeurs ou encore des points de retraite supplémentaires accordés aux pompiers volontaires.
Aux États-Unis, Donald Trump, derrière son candidat à la Cour suprême, après l'épisode typiquement américain des témoignages publics devant le Sénat, les sanglots de Brett Kavanaugh et de sa principale accusatrice, deux douleurs face à face, elle détruite par la tentative de viol qu'elle décrit, lui, clamant son innocence et pleurant sa famille et sa réputation perdue à jamais. 118 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens. L'agence de l'ONU qui leur vient en aide a obtenu de nouveaux financements pour compenser le départ des États-Unis. Le Koweït et l'Union européenne ont promis les plus grosses contributions. Accusé à la barre, le gendre d'Hélène Pastor entendu 7 heures durant hier au tribunal, accusé d'avoir commandité le meurtre de la milliardaire Wojciech Janowski, a nié en bloc, David Di Giacomo.
Laissez-moi parler, il n'y a aucune preuve contre moi, le dossier est vide. Dans un costume sombre impeccable, Wojciech Janowski distribue bons et mauvais points. Je peux répondre, maître, sinon ça devient un monologue, lance-t-il crânement à l'un des avocats de la partie civile. Ses aveux en garde à vue, c'était simplement pour que les enquêteurs libèrent sa compagne atteinte d'un cancer. Les accusations de son ex-coach sportif Pascal Doriac, qui le désigne clairement comme le commanditaire de l'assassinat de la milliardaire, pure invention, rétorque Janowski. L'homme d'affaires polonais, au très bon français, n'arrive pas à s'empêcher de parler gros sous, à tel point que son avocat, Éric Dupond-Moretti, est obligé de recadrer son client. Alors, Janowski enfonce son ancien coach. Doriac lui aurait soutiré 400 000 euros en échange d'une protection fantôme. Et c'est Doriac, toujours, qui aurait commis ce crime inimaginable. « Je n'ai jamais commandité quoi que ce soit », assure l'ancien consul honoraire. « La vérité, ça dérange ici », balance Janowski devant une cour d'assises. Perplexe.
Il baissait depuis des années, le taux de vaccination des enfants remonte depuis le début 2018, notamment contre la rougeole et le méningocoque, et pas seulement à cause des nouvelles obligations vaccinales, assure la ministre de la Santé Agnès Buzyn. 75% des enfants d'un an, de 12 mois, donc ont été vaccinés contre la rougeole cette année. Et si on personnalisait le dépistage du cancer du sein, si au lieu d'encourager une mammographie tous les 2 ans après 50 ans, on faisait la différence entre les femmes plus ou moins à risque. Les centres anti-cancer se posent sérieusement la question et lancent aujourd'hui une étude clinique sur 20 000 femmes en France, Véronique Julien.
En tout, 5 pays vont participer à l'étude, la France, l'Italie, Israël, la Belgique et le Royaume-Uni. 85 000 femmes vont être recrutées en tout, dont 20 000 en France. L'étude va durer 6 ans. Les femmes invitées à se porter volontaires devront avoir entre 40 et 70 ans. Elles seront ensuite divisées en 2 groupes. Un groupe standard qui fera le dépistage classique, un autre qui fera un dépistage ciblé en fonction de son risque individuel à développer un jour un cancer du sein. Pour établir ce niveau de risque, on va évaluer plusieurs critères. Suzette Delaloge est chef du service de pathologie mammaire à Gustave Roussy et coordinatrice du projet.
Quel âge elles ont? Est-ce qu'il y a des antécédents de cancer du sein dans la famille? On va utiliser un facteur qui est assez intéressant, qui est le type de tissu du sein et puis surtout un test ADN.
En fonction du score qu'on trouvera à chacune, les femmes seront appelées à faire des dépistages plus ou moins poussés.
Donc si ces femmes ont un score de risque qui est considéré comme bas, on ne proposera pas de mammographie avant 4 ans. Si les femmes ont un risque qui est considéré à haut risque, elles feront des mammographies tous les ans. Et éventuellement, si elles ont un très très haut risque, on proposera également des IRM une fois par an.
À terme, l'étude devra déterminer si un dépistage fondé sur le risque individuel est aussi, voire plus performant que le dépistage classique et permet d'éviter davantage de cancers avancés. L'étude mesurera aussi comment les femmes vivent le fait de savoir à quelle catégorie de risque elles appartiennent.
Véronique Julia, Netflix mise gros sur la France, le géant américain de la vidéo sur Internet annonce 7 nouvelles productions à venir et la création d'une équipe de 20 personnes pour chapeauter ses activités dans l'Hexagone. Une ambiance de match de football sur les greens maintenant, mais oui, c'est ça aussi, le golf, et c'est le spectacle auquel vous assistez, Guillaume Batin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la Ryder Cup, Guillaume, la plus prestigieuse compétition de golf pour la première fois en France, à 50 ans en Yvelines, 50 000 spectateurs, Guillaume. Et cette clameur, il y a quelques instants, au moment du premier swing?
Oui, ça continue à chaque swing des 4 premiers joueurs, les 2 Américains, Brooks Koepka qui est en ce moment. Vous devinez, voilà, les quelques supporters américains qui ont encouragé ce premier swing, mais il y a beaucoup plus de ferveur lorsque les Européens tirent leur premier coup, et là c'est le public européen qui réagit parce que cette balle est plutôt mal jouée, elle est proche du premier plan d'eau et les Européens sont très soutenus et plutôt bien partis, mais ça ne fait que commencer. 8h10, pétante pour le départ de cette 42e Ryder Cup avec John Rahm l'Espagnol, Justin Rose l'Anglais, Brooks Koepka et Tony Finau avec une très très belle ambiance. Vous l'entendez un petit peu derrière moi, nous sommes au pied du tee numéro 1, donc le trou numéro 1 avec la plus grande tribune installée tout au long du parcours de ces 18 trous, 6900 places, les gens sont arrivés très tôt ce matin, certains comme avant un festival de rock ou un match de foot sont arrivés très très tôt, ils ont franchi les barrières vers 6h30 en courant pour se placer le mieux possible pour voir les premiers coups des Américains et des Européens.
Voilà, le golf c'est rock'n'roll, merci Guillaume Batin en direct de Saint-Quentin en Yvelines.
Et enfin une pépite Florence, un cadeau ce matin sur Inter.
Le premier titre de l'album posthume de Bachung, Immortel, sorti attendu au mois de novembre, mais déjà en exclusivité sur Inter.
As-tu vu ces lumières ? Ces pourvoyeuses d'été, ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus.
Immortel, écrite et composée par Dominica en 2008, comme les 11 chansons de cet album écrit avant de mourir. Il sortira le 23 novembre.
Merci Florence Paracuelos.